Bienvenue à toi, chère auditeurice. Tu es bien sur 37.5. 37.5, c'est un programme radiophonique qui voyage entre les murs. Pour toi, il traversera les espaces, passera au rouge, grillera la priorité à droite, roulera à contresens et sortira plein feu. Bref, il y aura de l'action dans le micro. 37.5, c'est de la fiction. C'est les histoires qu'on se raconte pour tenir le coup. Des histoires polyphoniques qui prennent une, deux ou mille voix, qui tissent des liens et nous donnent envie de continuer à parler, d'écrire, écrire, rêver. Avec vous, on enjambe des fenêtres et des portes pour visiter d'autres intérieurs, d'autres quotidiens. 37.5, c'est ton rendez-vous sur les ondes qui prend la température. Alors j'espère que tu es prête pour le voyage auditif qui s'annonce. Aujourd'hui, 37.5 t'emmène en balade, en promenade, en voyage. On se défixe de notre canapé pour aller se fixer ailleurs, pour réfléchir mieux et voir d'autres choses. Et on commence avec Elsa. Je suis à ma fenêtre, en train de discuter avec elle. On a parlé toute la nuit. Je suis un peu fatiguée, je lui dis que je commence à avoir envie de bouger, de sortir de chez moi, mais vraiment. Pas juste pour aller à Auchan.
Je suis une personne ordinaire, banalité que je suis, se déplaçant à tâtons dans une vie commune parmi tant d'autres. Ce n'est pas faute d'avoir rêvé d'une existence plus fascinante. Vous savez, celle qu'on ne trouve que dans les livres ou dans les films. Ces histoires fantastiques, héroïques, où les chanceux personnages ne s'ennuient jamais. Pourtant, j'ai bien essayé de m'engouffrer tête la première entre deux pages ouvertes, de traverser l'écran. Ou encore de marcher contre un mur. À vrai dire, j'espérais me sentir engloutie, en route vers des chemins plus intéressants. Mais même les yeux fermés, et malgré la plus grande conviction possible, je me suis toujours heurtée à l'ennuyeuse réalité. Arrête de rêver. Mais heureusement, il y a chez moi. Je suis bien chez moi, parce que je peux voyager autant que je veux, où je veux, et quand je veux. C'est depuis chez moi que je voyage le mieux, finalement, et le plus loin aussi. Parce qu'il me suffit juste d'un peu d'imagination et de musique. En fait, l'imagination apporte la consistance, mais c'est la musique qui insuffle la vie au voyage. En tout cas, c'est comme ça que ça marche chez moi.
Oui, t'as raison, Elsa. On est bien, chez soi. Enfin, toi, t'as l'air bien chez toi. Mais là, comment dire? Aujourd'hui, je suis prise du sentiment de « j'arrive pas à rester en place ». Comme ces moments où une forme d'excitation monte en nous sans aucune raison. Et cette excitation que j'arrive pas à situer, à caractériser, ça me fait tourner en rond. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à creuser un cercle dans le sol à force de friction avec mes pieds. Jusqu'à prendre tellement de vitesse que je suis expulsée loin et que l'énergie accumulée dans mon corps par cette vitesse me fait tourner en orbite dans mon salon. Puis passer par la porte d'entrée qui s'est ouverte toute seule de surprise et cogner un arbre ou deux. Aujourd'hui, j'ai des fourmis dans les jambes à force de rester immobile et je veux courir, pas pour entretenir ma musculature, mais pour traverser des rues, des passages piétons, des murs du son. Sans avion, sans matériel de propulsion, je veux flotter et poser mes yeux sur le monde vu d'en haut. Secouer mes jambes, faire tomber les fourmis et leur rendre leur liberté. Mais ça, ce sentiment, c'est pas arrivé tout seul en vérité. C'est arrivé parce que j'étais en train de commencer à tourner en rond, mais à la vitesse 1. J'avais pas encore entamé le parquet. Je tournais en rond et je ruminais sévère. J'en pouvais plus d'être enfermée. Alors je me suis imaginée voler comme ça, en passant au-dessus des lois, des attestations et de l'ordre public. J'imaginais voler, mais j'étais coincée. Et j'attendais. J'avais rien sous la main à part une zapette, alors je me suis dit que ça allait me détendre et me faire oublier que je ne pouvais pas bouger. J'allume alors mon écran et me colle devant. C'est bizarre, pour l'instant, il n'y a pas d'image. Mais j'entends une voix toute douce.
Voyage. Voyage constant entre les limites du réel. Balade tranquille entre les feuilles d'un arbre majestueux, passage de terrasse en terrasse, voyage dans la forêt, dans le couloir, voyage entre les chambres, voyage voyeur. Épopée collective dans les recoins de chacun, excursion indiscrète dans un moment d'intimité, douce promenade de rire en rire, voyage immobile, voyage ensemble. Et plouf, plus rien. Noir complet, le noir de la nuit, de la suie, le noir des soirées cinéma, noir chaotique, mais noir tranquille. Notre confinement est une croisière. Un bateau s'est amarré près de nous, nous y sommes montés, tranquilles, sans crainte. Depuis nos voguons, les vaguelettes nous portent, les tempêtes nous font chavirer le cœur, l'esprit. Voyage de l'âme dans une utopie collective où le naufrage n'existe pas. Voyage, voyage. Nos corps s'épuisent, nos corps vivent, on s'étreint. Conscient de la chance de vivre ce voyage tous ensemble, on s'enlace d'avance pour quand nous devrons nous quitter, quand nous nous retrouverons seuls dans nos appartements. Voyage solitaire. Je tâche de ne pas trop penser à la fin. La plupart des gens rêvent que ce bazar se termine. J'ai envie de rester ici pour toujours, dans ce voyage intemporel où la création règne, où la bienveillance flotte un peu partout, où l'amour trône, vainqueur. La date de retour s'approche indéniablement. Ce voyage, notre voyage à nous, sont déjà à la fin. Et après ? Après quoi ?
Bon, oublie, c'est pas pour de suite qu'on va pouvoir bouger d'ici, hein. Je zappe. Il y a une jeune fille qui parle sur une chaîne de documentaire. J'écoute d'une oreille distraite, me disant que voir du pays à travers mon écran m'enlèvera peut-être l'envie folle de bouger que je ne peux pas assouvir pour l'instant.
Le projet Safari est né avec l'intention de questionner une expérience de voyage en Namibie en 2017. J'avais alors participé à un safari photo organisé par l'agence de voyage Nomad. Ce safari était ma première expérience de voyage organisée. Pendant 12 jours, avec un groupe de 15 autres touristes, nous avons traversé la Namibie dans un rythme où tout était calculé à la minute et où tout ce qui passait sous nos yeux était capturé par l'obturateur des appareils photo. Dépourvue face à cette situation qui me révoltait et dont j'étais actrice à mon corps défendant, j'ai donc pris la décision de ne pas utiliser mon appareil photo. À la place, j'ai utilisé mon téléphone pour faire des photos, mais aussi des enregistrements audio et vidéo. Focalisant mes photos sur les touristes, en décryptant leur manière de s'habiller et de se comporter. Cela me permettait d'inverser la relation spectateur-spectacle. Certaines de ces photos étaient plus explicites que d'autres, notamment celles prises dans un village Imba, peuple nomade apprécié par les touristes pour leur qualité photogénique. Ces photos, fruits du ressenti que j'ai eu pendant ce voyage, ont servi de matière première à la naissance de ce projet. En rentrant en France, l'envie de continuer à travailler sur ce projet qui m'avait choquée était toujours présente. J'ai donc sélectionné et imprimé des photos que j'avais prises pendant ce voyage, ainsi que certaines vidéos. Mais, a posteriori, je trouvais les photos dépourvues de nuances pour pouvoir l'amener sur un terrain propice au questionnement. J'ai donc cherché d'autres points de vue sur le sujet. Au long de mes recherches, j'ai découvert l'anthropologie touristique, portée par des personnes comme Marc Auger, Sylvie Brunel ou encore Franck Michel, mais aussi des films comme Safari d'Ulrich Schild ou encore l'exposition Le magasin des petits explorateurs au Quai Branly, qui présente des objets populaires contributeurs de l'imaginaire collectif du voyageur. Ces approches m'ont permis de reconsidérer mes photos et d'en dégager des problématiques suivantes. Dans quel but les gens venus des pays du Nord voyagent dans les pays du Sud ? Quelles images procèdent-ils sur la Namibie avant d'arriver et quel est le processus de construction de ces images ? Est-ce que leurs imaginaires touristiques ont été confirmés ou trahis par la réalité du pays ? Quels étaient leurs niveaux de conscience par rapport à la mise en scène d'un pays au service de leurs désirs ? Est-ce que les Namibiens jouent volontairement au rôle qui leur a été attribué par les touristes des pays du Nord ? Comment interprètent-ils l'appareil photo pointé sur eux ? Dans quelle mesure les guides préparent les populations locales à avoir l'attitude attendue par les touristes ? Est-ce que les populations du Nord, du Sud migrantes dans le Nord ont une image de population du Nord basée sur les touristes croisés dans leur pays? Quelles sont les différences entre le regard du touriste, de l'artiste, de l'ethnologue par rapport à cette population du Sud? Et ces différents regards se sont-ils bâtis à partir du même imaginaire? Est-ce que la population du Sud perçoit une différence entre ces regards? Est-ce que les enfants visiteurs ont le même regard que leurs parents, et en particulier vis-à-vis des enfants du Sud?
J'aime bien ce qu'elle me raconte, cette dame, avec sa voix de futuroscope. J'ai l'impression de partir à la découverte du monde. D'ailleurs, on va partir comment à la découverte du monde maintenant? Les avions, ils vont redécoller? Parce que elle, d'accord, elle veut rester enfermée, mais moi j'ai toujours l'envie de courir qui me gratte de l'intérieur. L'envie de parcourir, de croiser des montagnes, des cascades et des oiseaux, croiser des gens à qui je pourrais dire « Ohé, du bateau !» Faire des grands signes de la main et en recevoir en retour. Alors, les avions, ils vont redécoller?
Je pense que les avions redécolleront. Ici, on regarde beaucoup le ciel. Il est normalement parsemé de ces oiseaux de tôle. Je vis pourtant dans la ville des avions, à Toulouse, mais aujourd'hui, tous sans exception ont disparu. J'ai toujours aimé les avions. Et quand l'occasion se présente, j'embarque à bord de l'un d'entre eux pour retourner à Paris. Ligne souvent bondée de travailleurs pressés, beaucoup de personnes présentes n'émettent aucun signe de bonheur, de satisfaction à l'idée de voler dans le ciel. Pourtant, dans un avion, on vole. C'est quand même remarquable, et la passivité de ces personnes est quelque chose de déroutant. Sûrement, alors, ont-ils l'habitude de voler. Ils volent aussi fréquemment que je mange. Souvent, ces personnes ferment leur hublot, car l'éclat du soleil se reflète sur la surface de leur ordinateur. Et ils travaillent déjà avant même que l'avion ne décolle.
Il vaudrait mieux pas que les avions redécollent, en fait. Notre système de voyage est tout pourri. Et on l'a toujours pas compris. On crée et alimente des gouffres d'inégalités. On pollue à tout va sans se soucier des populations qui morflent à notre place. Je te jure. EasyJet n'essaie même pas de m'envoyer un mail commercial parce que là, j'ai la haine. J'ai plus envie de bouger. Je suis blasée. Et en plus, je sais même pas quoi faire de mes belles convictions. Un seul truc peut me sauver de la déprime, un plaisir coupable. Je lance un enregistrement de train que mon amie Mathilde a réalisé du temps où il roulait encore. Oui, je sais, la SNCF est le plus grand consommateur d'électricité de France, mais je veux juste me souvenir du ballottement du wagon sur les rails. Mon téléphone sonne, mais j'ai la flemme de répondre. Je veux plus m'approcher d'une machine. Mon antenne interstellaire frissonne. Ah, ça doit être Uma. Elle est partie dans l'espace depuis longtemps. Avant même qu'on songe à tous ces problèmes de pollution liés au voyage. Je m'élance sur l'appareil, mais elle a raccroché. Merde. Ah, c'est bon, elle m'a laissé un message. Je presse play sur les répondeurs.
Hey, c'est encore moi, ça va? Je suis contente que t'aies reçu mon message. Et que t'as apprécié avoir de mes nouvelles. Du coup, je t'en fais un autre. Et pense à être à côté de ton téléphone, parce que là c'est pas possible. J'ai l'impression de faire un podcast toute seule dans ma chambre, à parler à mon mur et à mes ficus. Bon, là, j'ai pas de ficus, en l'occurrence. J'ai pas de mur non plus, j'ai ces baies vitrées qui donnent sur les étoiles. Mais c'est à peu près la même chose. Oh, j'ai une trop bonne idée. T'imagines si je faisais un podcast de l'espace, de mes aventures, genre pour y avoir un jingle et tout, ce serait genre une voix anglaise un peu grave et tout, genre un peu sexy, tout ça, qui fait Uma Space Adventure. Et là, il y a un petit jingle et tout.
Uma Space Adventure.
Piu, 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 piu. Ça, c'était les lasers à la fin du jingle. bref. Je sais même plus pourquoi je t'appelais. Je sais même pas. Je sais même pas par où commencer en fait. Ah oui. Ah non, mais tu sais pas. Tu sais pas ce que ma mère elle m'a dit l'autre jour. Elle m'a dit. Mais de toute façon, Uma, toi, depuis que t'es toute petite, j'étais persuadée que t'étais une aventurière. Mais tu sais, genre, de la manière dont les mères elles disent les choses, en mode, ça ressemble à quelque chose qui est cool et qui est agréable et gentil. Mais derrière, tu sais qu'elle veut dire autre chose. Tu sais qu'il y a une petite chose, il y a un sous-titre en fait. Il y a une traduction à cette phrase. Et là, je me suis rappelé quand on était petite, elle m'appelait toujours ouais, l'aventurière, tout ça, patati patata. Mais en soi, c'était dans sa, je pense que dans sa réalité, dans sa tête, c'était plus tu fais beaucoup de conneries. C'était ça le truc. Et maintenant, regarde-moi, je fais toujours autant de conneries. Et je suis une aventurière. Je suis une vraie aventurière qui part à l'aventure. Ouais, ça c'est moi. Du coup, elle me dit ça. Et j'ai grave pensé à ce truc de partir, en fait. Je pense que c'était ça, en fait, le sous-titre du propos de ma mère. C'est qu'elle comprend pas pourquoi je pars. Et je me dis, mais en fait, pourquoi on part? Pourquoi on a envie de sortir d'une situation qui potentiellement est confortable? Et je pense que la réponse est assez simple, dans le sens où le confort de l'un n'est pas forcément le confort de l'autre. Quand j'étais petite, une des choses les plus confortables, c'était dans une voiture, entre les sièges arrière qui étaient baissés avec les valises par-dessus, la portière et moi qui me mettais entre les deux pour pouvoir dormir. Et c'était ce moment-là, en fait, où je me sentais super confortable. Alors que maintenant, je me rends compte à quel point c'est super inconfortable de faire ça. Peut-être que je suis attaché à cette idée de partir. Peut-être que c'est ça que j'aime quand je voyage. Peut-être que c'est pour ça que ma mère, elle dit que je suis aventurière. J'aime bien m'imaginer en tant qu'aventurière. J'aime bien ce mot, tu vois. Il y a un peu de la fiction. Le voyage, c'est ça. Le voyage, c'est comme écrire de la science-fiction où en fait, t'es autant le personnage et l'auteur, et tu commences à un point où toi tu es quelque chose, ou en tout cas sur ce cheminement tu vas avoir un changement qui va s'opérer, et ce changement il va se faire grâce à toutes les hypothèses et toutes les potentialités de choses qui font face à toi en fait, qui, pour arriver à un point où tu voulais aller, mais pas forcément de la manière dont tu pensais que tu allais le faire. Il y a tellement de choses qui se passent, en fait, dans cette action de voyager, que le voyage n'est pas que matériel. Il peut être fictif, en fait. Il peut être totalement dans ta tête. Et bref, peut-être que je suis une aventurière. Peut-être que je suis une aventurière de l'espace. C'est ça que je suis. T'imagines si là, tout ce que j'étais en train de vivre, mon vaisseau et mon intelligence artificielle et tout ça, c'était faux, c'était moi qui l'inventais. Et là, j'étais juste en train de parler à mon mur, dans ma chambre. Ah d'ailleurs, j'ai décidé de l'appeler Anaïs parce que je trouvais que Automatic Navigation Artificial Intelligence System, c'était un peu long à prononcer quand je devais l'appeler. T'imagines si Anaïs, en fait, c'était le fruit de mon imagination et c'était moi, en fait, qui faisais des bruits étranges dans mon micro, en mode non, je déconne. Anaïs, dis bonjour.
I don't want to engage in any conversation right now.
Ok. Merci, Anaïs. Ouais. Pourquoi je t'appelais déjà? Le voyage, tout ça. Ah oui, le voyage, partir en voyage. T'es déjà venu chez moi, non? Parce que, en fait, mes clés sont sur le paillasson et j'ai oublié de prendre mes cactus avec moi. Est-ce que tu pourrais les arroser, s'il te plaît? Ça me rendrait un énorme service. Merci! Ciao!
Space Adventure.
Merci, Uma. J'arroserai tes plantes. Tu peux compter sur moi. Je me dis que la vision de moi, petite, dans la voiture, ne m'évoque pas du tout un sentiment de confort. C'est un truc beaucoup plus puissant que ça. C'est plutôt un sentiment bizarre qui montait de dessous le siège dû aux vibrations du moteur. Ça me galvanisait. Ça me bougeait mes organes, ça faisait s'entrechoquer mes dents, ça me mouvait de l'intérieur. Le mieux, c'était les dodanes. J'avais l'impression d'être au futuroscope, again. Ça faisait trembler jusque dans mes cellules. Alors le jour où j'ai eu le droit, moi aussi, de conduire, et quand je me suis calée la première fois sur le siège conducteur, je crois que ça a été une évidence. La voiture épousait mes formes. J'épousais les siennes. J'étais enfin entière. Ma télé est toujours allumée et sur mon écran s'affiche en gras, en grand, un texte qui défile comme un karaoké. Je peux pas l'éteindre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me lève, recommence à tracer un grand cercle avec mes pieds sur lequel je passe, repasse, comme une boucle infinie. Mon cerveau est trop mou pour ordonner des actions compliquées. Mes yeux toujours fixés sur l'écran, je commence à annonner bêtement ce texte qui n'en finit plus de défiler. Et ainsi, l'automobile, machine, on ne peut plus trivial et presque archaïque, que chacun s'accorde à trouver bien utile et même indispensable à notre liberté de déplacement, devient tout autre chose si on la replace dans la société des machines, dans l'organisation générale dont elle est un simple élément, un rouage. On voit alors tout un système complexe, un gigantesque organisme composé de routes et d'autoroutes, de champs pétrolifères et d'oléoducs, de stations-service et de motels, de voyages organisés en cars. De grandes surfaces avec leurs parkings d'échangeurs et de rocades, de chaînes de montage et de bureaux de recherche et de développement, mais aussi de surveillance policière, de signalisation, de codes, de réglementation, de normes, de soins chirurgicaux spécialisés, de lutte contre la pollution, de montagnes, de pneus usés, de batteries à recycler, de tôles à compresser. Et dans tout cela, tels des parasites vivant en symbiose avec l'organisme hôte d'affectueux, aphidiens, chatouilleurs de machines, des hommes s'affairant pour les soigner, les entretenir, les alimenter et les servant encore, quand ils croient, circuler à leur propre initiative, puisqu'il faut qu'elles soient ainsi usées et détruites au rythme prescrit pour que ne s'interrompe pas un instant leur reproduction, le fonctionnement du système général des machines. Voiture, machine, machine, voiture, voiture volante, machine, voiture, voiture. Nous sommes imbriqués dans une société de machines. L'organisation générale n'est pas pour vous déplaire, messieurs, dames. Admirez la puissance de ce moteur 8 cylindres, 179 chevaux, aussi doux que du miel, puissant comme des céréales Lyon. Vous allez pouvoir en parcourir des kilomètres avec celui-là, je vous l'assure. Mais approchez, voyons. Ne sentez-vous pas cette douce odeur de pétrole qui se dégage du capot? Capot avec ouverture et fermeture automatisée depuis l'intérieur de l'habitacle, messieurs, dames. Plus besoin de se salir les mains. Ah oui? Non, parce que vos mimines, il faut les préserver. Vous avez la puissance de l'achat, la ferveur de la carte bleue, le pouvoir du compte en banque. Ce n'est pas vous qui fabriquez le fioul qui nous nourrit, aussi bête qu'on est avec nos bouches grandes ouvertes, oisillons nourris à même l'oléoduc. Manger de l'essence. Putain, en fait, je crois que j'ai envie de rouler. Je crois que c'est le seul moyen d'apaiser les fourmis. Je les sens, elles me crient d'attraper mes clés de bagnole et d'avaler du bitume. J'ai envie de sentir des odeurs de peau d'échappement. De faire clignoter des radars, le visage allumé par des feux tricolores. J'ai envie de me noyer dans des masses de voitures bouchonnantes sur des périphes surbondés, crier à celui ou celle de devant d'avancer, je veux me retrouver, la bestialité de nos rapports d'automobilistes égoïstes et malpolis. La jungle du déplacement motorisé. Ce moment où tu te jettes sur une place de parking, la dernière, et tu la remplis fièrement de ta carrosserie devant les yeux ébahis des connards à qui tu viens de piquer la place. Rouler longtemps, sous un soleil, au zénith. Brûler du gasoil à n'en plus finir, je suis en transe. Toutes mes belles considérations écologiques disparaissent devant cette idée plus que séduisante de tailler la route avec mon engin à moteur. Je veux caresser ses pédales et poser mes doigts, frémissants, sur son volant. Les clés sont sur le meuble d'entrée, je ne peux plus. Je les chope vite, comme pour ne pas être vue de moi-même, et file. Ah, ce doux son qui annonce la liberté. Je te regarde et c'est comme si nous nous étions jamais quittés. Je t'aime, voiture. Avant d'ouvrir la portière, je vois Julia qui a les pieds dans une jardinière de la mairie. Elle parle avec ses pieds, elle est avec Mathilde, qui raconte quelque chose sur le sol. On dirait une méditation guidée qu'elles seules peuvent comprendre. Bon, elle parle du rapport de la terre ou je sais pas quoi. Donc j'entends que des bribes de toute façon.
Après l'orage, le vent souffle. J'entraîne mes talons, mémoire plantaire, mélange de cornes et d'écorce. Ici dans le nord, où les journées s'étirent.
Je vais vous lire un texte qui parle du sol. Le sol, c'est une surface qu'on piétine. J'y fais pas souvent attention. Ça me fait penser aux carreaux à piétiner de Carl André et toutes les œuvres à piétiner. La marqueterie de la Fondation Gulbenkian à la Biennale de Lyon et un pavillon allemand que j'avais vu dans une biennale de Venise, peut-être en 2017. Je me pense à une pièce que j'avais vue de Gabriel Orozco, au sol, un rectangle avec des objets récupérés dans la mer et des troncs d'arbres avec des petites voitures dessus. Les pièces de Katinka Box sont parfois au sol. Chez moi et aussi dans mon atelier où je suis, j'aime bien quand le sol est propre. Je trouve que ça compte même si on n'y pense pas. Le sol, c'est là où on n'est pas, je ne regarde pas le sol. Je pense que le sol, ça pourrait être une métaphore de quelque chose de plus bas que soi. Je trouve ça drôle, parce que nous, humains, en marchant, chacun touche le sol. Pourtant, moi, je ne me situerai pas au sol pour me définir. Je me situe plutôt au niveau de ma tête, parce que c'est là où sont mes organes de la vue. Le sol, c'est le niveau des pieds pour les humains. C'est le lieu des racines de l'arbre. C'est sur le sol qu'on s'appuie en marchant et en courant. Le sol est immobile, et c'est lui qui nous sert à être en mouvement. Quand je pense au sol, je pense aux textures, je pense à la terre, au trottoir, à du parquet, à du lino. Quand je regarde le sol, je ne peux pas regarder devant moi. C'est comme si j'évite quelque chose, c'est la même sensation que de penser à du passé. C'est fondamental, mais ça fait pas avancer. Je pense à ces vieilles dames dans le quartier où j'ai grandi, qui ont des si grands problèmes de dos qu'elles sont pliées en deux dans la rue, et elles sont face au sol quand elles marchent dans la rue. Le sol, dans mon appartement à Croix-Rousse, est froid, parce que je suis au rez-de-chaussée. Je sais que juste en dessous, il y a les caves de l'immeuble. Dans la rue, le sol du trottoir est dur et imperméable, artificiel, coulé en béton. Je regarde le sol quand je suis triste. Le sol prend le soleil. Regarder au sol, c'est baisser la tête, c'est un geste d'empathie. Celui qui refuse de baisser la tête voit le sol dans sa vision périphérique. Le sol, c'est du paysage. Le sol se sent avec les pieds. Le sol, c'est un point de départ pour les sculptures. Pour l'enfant, le sol est tout proche, et puis quand l'enfant grandit, le sol s'éloigne. Le sol est loin des yeux de l'adulte. J'ai vraiment l'impression que le sol, ça résonne avec une temporalité précédente. Par exemple, si c'était un histogramme. Les pièces de Mario Merz commencent au sol, les sphères. Les maisons commencent au sol. Ce qui n'est pas au sol, c'est une extension. Les insectes sont au sol. Les serpents sont au sol. Les fleurs et la nourriture sont au sol. Les sans-abri sont assis au sol. Ce qui est jeté ou oublié est au sol. La rue est du sol. Les océans sont des sols d'eau. Sol, c'est une note de musique. Une clé. Le sol, c'est la gravité. Ça fait mal d'y tomber. Je me suis cassé une dent contre le sol. Je me suis allongé au sol. J'ai perdu connaissance au sol. Parcourir le sol. Voyager. Se balader. On passe de sol en sol. De territoire en territoire.
Pas le temps de m'attarder sur des jardinières et puis tu es là. Si belle. si forte. Je t'ouvre, j'entre, je ferme la portière. Je respire un grand coup cette odeur de poussière et de produits de nettoyage. Ton odeur n'a pas changé. C'est bon de te sentir à nouveau. Je caresse doucement le cuir du volant de ma main gauche, tu es douce. J'en serre mes deux pommes à 10 heures autour du cylindre. Je force un peu pour sentir ma poigne contre toi, je souris. Je fais couler ta ceinture contre mon buste. Ta fibre est puissante et douce à la fois. J'ai envie que tu me serres un peu. Tu roules sur ma hanche, de ma main je fouille jusqu'à atteindre la fermeture et te fais pénétrer à l'intérieur, clac. Tu t'encastres parfaitement en faisant ce petit bruit que j'adore. Je jette la tête en arrière, je glisse la pointe de mon pied gauche sur le tapis de sol jusqu'à rencontrer la pédale d'embrayage. Je cale ma voûte plantaire dessus. J'écarte mes jambes pour atteindre l'accélérateur, je glisse, ça cogne. Je bascule sur mes talons, je me cale dessus. Mes deux pieds bien en place, j'appuie doucement pour tester ta résistance. Tes pédales sont fermes et nerveuses, tu n'as pas changé. Je m'enfonce dans ton siège pour mesurer ta profondeur, je suis prête. La main sur le contact, j'y fais tourner la clé. Aventurine, on. Mon GPS est ta commande vocale.
Bienvenue, Cécile. Je suis Aventurine. Je vais te guider dans ce voyage. La destination est inconnue.
Je me laisse emporter par sa voix si belle, j'ai plus rien devant moi à part une bande blanche qui défile et des kilomètres de paysages que j'avale. Je ne le regarde même pas. Ce qui m'importe à ce moment précis, c'est le mouvement. La sensation de rouler vite, fort, puissamment.
Roule, roule, tout droit, tout droit. Oui, tout droit. Dans 300 mètres, une intersection. À droite, c'est la ville, à gauche, c'est la vie. Tourne à gauche, tout droit. Tout droit. Accélère. Accélère. Montre à la route qui est la plus forte. Accélère encore. 150 km/h, c'est pour les bébés escargots. Défonce ce champignon. Tout droit. Zara, accélère, double la Peugeot, plus vite tortue, ma mamie est plus rapide que toi, fais cracher ce moteur, accélère, sans tes roues, dominer le béton, sans le gasoil, passer entre tes conduits, ressens la puissance de ton moteur, accélère, accélère. Va vers ton destin, domine les chemins, tout droit, tout droit.
Putain, il y a un imbécile dans la voiture d'à côté qui chante une espèce de variété démodée. Je lui lance un regard noir, je coupe ma musique. Tant pis pour la techno, je suis trop puriste pour écouter deux musiques superposées.
Happy today, I ran over. Happy today, I just finished my yoga session, and I ran over her foot, and I ran over her foot, but I kept on driving, I kept on driving. Why did I keep driving? I don't know. Why did I keep driving? I don't know. I was in my Ford K and I kept driving. She had a broken foot and I didn't do anything. I didn't take her to the hospital. I wouldn't do anything. Am I a criminal? Am I a criminal? Am I a criminal? Criminality, criminality. I've been driving in my car today. I've been driving in my car today, in my little Ford K, and I need to give it a little clean, cause there's magazines on the floor, and there's cigarette butts in the ashtray, and there's Lucozade bottles in the car. What am I gonna do, la voiture? Vroom.
Je tourne à gauche. Je sais précisément où je vais. J'ai plus qu'à choper la nationale et rouler tout droit vers le sud pendant des kilomètres. Passer ce rond-point et je... Oh non! J'ai l'impression que la route que je voulais prendre est barrée. Il y a une agente de la circulation sur le rond-point, on dirait qu'elle danse. Bon, j'ai pas le temps de me garer, je monte sur le rond-point et une fois à côté d'elle, baisse ma vitre.
5, 6, 7 et 8 pliés. Bonjour madame, bienvenue sur le rond-point, ne soyez pas timide! Petit geste pour qu'elle vienne, et hop, 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 tournez, tournez, et chassez. Prenez la troisième sortie, autoroute A40, je vous en prie, au revoir. Et pliez, tendu, 5, 6, 7, 8, reposez. Ça fait 3 semaines que je fais ce job, mais my god, c'est génial. Ils m'ont vraiment donné le meilleur rond-point de la région en plus. Il est bien bombé, je suis au sommet, c'est top. J'ai une vue superbement dégagée et on me voit parfaitement aussi. Ce qui me permet de gérer le trafic de manière impeccable. Et puis, c'est pas mal les petits carreaux qu'ils ont mis comme survêtements, là. Et plié, coupé, pas de bourré, dégagé, et barre en première. Et bonjour, monsieur. Cha, cha, cha. Position du drone, on est en planche, on tient... On tient la jambe d'appui sur le sol, l'autre parallèle au sol, à l'angle droit de la première. J'écarte les bras, je tourne. Moulinet, moulinet, vers la gauche. Allez-y, ralentissez pas. National, deuxième sortie. De rien, monsieur, au revoir. Et fente à gauche, 3, 4, salut. Ah, ouais, c'est complètement addictif. Chaque voiture qui passe, c'est un moment de gloire pour moi. Tout le monde me voit, alors je danse de ouf. Enfin, de toute façon, on me l'avait dit, hein, que c'est un métier que font souvent les danseurs ou les circassiens déchus ou un peu trop vieux. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Là, ils ont un public qui vient à eux. Bon, ça dure pas trop longtemps, mais... Par exemple, moi, ça va vous surprendre, mais ça m'est déjà arrivé que certains automobilistes fassent 10, 20, 30 tours de rond-point pour me voir faire l'intégralité de mon show. Je suis ici, je danse et je vois tout. Tout le monde, je vois la vie de cette région. Ceux qui prennent la sortie pour rejoindre l'autoroute, d'autres qui vont par la nationale en direction de Manosque, de Aix-en-Provence ou de Marseille, ou encore ceux qui prennent la sortie vers la zone industrielle, ou la dernière solution, ceux qui vont vers les villages de Provence, Gréoux-les-Bains, Esparron, Sainte-Croix-du-Verdon, le lac du Verdon, les forêts autour du Verdon. Ah, je les sens qui m'appellent. J'adore ce côté-là de mon paysage à 360 parce qu'on peut déjà voir les grandes allées des champs de lavande. Ah non, mais je te jure, c'est le rêve, un paysage à 360. Quatrième position et pirouette à gauche, plié, tendu. Franchement, avec un job comme ça, il n'y a même plus besoin de voyager. Et même les gens dans leur voiture, ils pourraient rester tout le temps autour du rond-point. En regardant à droite, ils verraient les différentes sorties, les différents choix qu'ils peuvent faire. Ils apercevraient l'A40 au loin, ça leur donnerait déjà un peu la sensation de l'autoroute, de la vitesse. Et puis ils dépasseraient ça, et ils verraient la zone des usines et du port industriel, puis la sortie par les petites routes qui donnent sur les lavandes et les oliviers. Ça fait déjà un beau panel de couleurs et sensations, quoi. Et quand ils tourneraient la tête à gauche, ils me verraient moi. Et moi aussi, je donnerais tout, hein. Je leur ferais un spectacle, mon gars. D'ailleurs, demain, je pourrais même amener une enceinte, en fait. J'aimerais bien faire une choré sur Volare de Domenico Modugno. Tu sais, ça fait
Volare. Oh, oh. Cantare.
Oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Oups là, attends, le trafic reprend. Bonjour madame. Oui, bien sûr. Alors ce sera la quatrième sortie. Oui, pas de souci, je vous en prie. Attendez, mais dites-moi, est-ce que je pourrais vous faire un petit spectacle? Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, hein, ce serait possible.
Merci la jante. Mais je dois filer, la route m'attend. Je continue de rouler, le bruit de moteur s'intensifie un petit peu, c'est bizarre. Bon, oh, ça doit pas être grave. Ah, et si on allumait la radio?
Lorsque je ne prends pas l'avion pour retourner voir ma famille, je le prends pour partir en voyage. Je pense que le voyage ici mérite que l'on s'en souvienne et chaque souvenir doit être préservé. Au début du confinement, j'ai eu l'idée de commencer à écrire mes voyages, écrire pour se rappeler. Alors ici, je vais vous raconter ce que je me souviens dans mon voyage. Comme ça, ces souvenirs ne pourront pas disparaître et on s'en souviendra tous. Je vais vous parler de ce que je me rappelle. Je vais vous raconter ça de route en route, d'un camping à un autre. Je vais vous raconter ça sur le pouce comme une histoire à partager. Mais je ne me porte pas garante de la qualité de mes souvenirs. Et vous en parlez, vous savez, c'est aussi un exercice pour les rafraîchir. Alors commençons. Je me rappelle dans la gare routière de Toronto. Au milieu de la nuit, j'ai vu un oiseau et j'ai trouvé ça surprenant. Et juste après, je me suis rendormie. Je me rappelle d'Andy aussi. C'était un chauffeur routier rencontré sur la Transcanadienne. À mon souvenir, c'était vraiment un homme généreux et plein de tendresse. Il nous avait même conseillé de dormir à côté de son camion dans la tente au cas où un ours nous attaquerait. Je me souviens aussi de Davida. Davida, c'était la femme de David sur l'île Manitoulin. On a passé toute une soirée à beaucoup boire de grandes bières fraîches sur sa terrasse et elle nous a raconté toute la nuit sa vie avec sa tante malade sur l'île. Je me souviens un matin aussi m'être réveillée la première dans la tente par le bruit de dindons sauvages. Ils étaient nombreux à vivre sur l'île. Alors effrayée, je n'ai pas bougé et j'ai attendu qu'ils passent leur chemin. Je me souviens de Chris Abari qui nous a pris en voiture. Le soir, on a même dormi dans un fossé. Le lendemain, on est parti vite en prenant tout de même le temps de manger une seule tartine de confiture sur un banc. Je me souviens avoir fait des courses pour nos futurs jours de camping dans un supermarché près d'Algonquin. J'avais très mal au dos et c'est à ce moment-là qu'on a échangé nos sacs. Je me souviens avoir rencontré Kenton. Kenton, c'était un natif du parc. Ses parents venaient de là-bas et en nous déposant au camping, il nous a offert des glaces et de l'argent. Je me souviens aussi, un soir en tente, avoir eu peur d'être attaqué par un ours en allant aux toilettes. Je me souviens avoir oublié une part de pizza dans la tente et j'ai cru qu'un ours allait venir tout ravager. Je me souviens de nos voisins, c'était la famille McGuire. Ils venaient d'Ontario. Le père était détective et la mère s'appelait Mélissa. Je me souviens, on a joué aux cartes, peut-être pendant 2 jours. Ils nous ont prêté leurs canoës pour les après-midi et c'est comme ça que je suis partie une après-midi seule sur le lac. Mais ce jour-là, il y avait trop de vent et je suis restée bloquée au milieu de l'eau. Je me souviens d'une soirée chez Kenton dans son cottage. Il avait tout préparé pour que l'on passe une superbe soirée. Le vieux canoës de ses parents était prêt à partir et les verres de vin blanc avec. Au final, il n'attendait plus que nous. Je me souviens de cet avocat d'une 50aine d'années environ, nous donnant $100 à la gare d'Ottawa. On n'a jamais trop compris pourquoi, mais ça se voyait, il était heureux de faire ça. Je me souviens avoir fait du pouce sur des parkings en tout genre. Je me souviens sur un parking de magasin de bricolage au Québec avoir vu Anne-Marie pour la première fois. On est monté dans sa voiture et une tempête arrivait. Elle ne nous a pas laissé le choix que de rentrer avec elle. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait la connaissance de son mari Jean-Noël. Lui, Jean-Noël, souvent, il nous faisait rire et il criait tabernouche. Je me souviens avoir été au milieu de la rivière Péribonka avec eux. On a passé la journée à cueillir des berries et manger une tarte le soir. Je me souviens le lendemain leur avoir dit au revoir et avoir été très triste. Je me souviens être arrivée près des fjords le lendemain. On a passé une soirée près d'un lac à manger les restes du dîner de la veille. Je me souviens avoir vu une baleine, enfin juste le dos de la baleine à Tadoussac. Je me souviens, de l'autre côté de la rive du fleuve Saint-Laurent, avoir passé des heures à trouver un logement. C'est là que j'ai rencontré Suzanne. Suzanne, elle venait de Toulouse et elle aimait Jésus. Il nous emmenait chez elle. Elle avait une roulotte dans le jardin qui pouvait nous accueillir. On a passé la soirée avec elle et son mari Mario, qui venait du Québec, à construire une charpente pour un garage dans le jardin. Mario, lui, était prof de musique. Un jour, il nous a raconté, après la soupe, qu'il était allé au milieu du fleuve avec sa barque pour jouer de la trompette sous l'eau. Et c'est quelques secondes plus tard que sa barque se renversait. Il a vite compris, en recommençant, que c'était les baleines du fleuve au son de la trompette qui s'étaient mises à danser. Je me souviens de René, directeur des pompes funèbres de Rimouski, qui venait de perdre ses deux chiens. Je me souviens aussi de Chantal à Douglaston. Je me souviens avoir planté ma tente trop près de l'eau un jour, et que pendant la nuit, l'eau est arrivée jusqu'à nous. Je me souviens de New York, d'être arrivé à l'aube et d'avoir vu cette image incroyable. Je me souviens avoir dormi dans Central Park juste après. Je me souviens être allé à Niagara Falls, avoir vu des dinosaures de 3 mètres en plastique. Je me souviens avoir dormi dans un motel où les lits étaient aussi grands que mon studio. Je me souviens très bien, aussi, quand l'avion a quitté le sol. On a traversé l'Atlantique au milieu de la nuit. Le cache de mon hublot était fermé et je ne dormais pas. Ce n'est que par curiosité que je l'ai poussé pour voir à travers. Je pensais voir beaucoup d'étoiles. À ce moment-là, on était au-dessus du Groenland. Tout le monde dormait, et c'est là que les aurores boréales ont commencé à danser.
Bon, je suis désolée, mais je t'éteins un gentil radio parce que j'ai besoin d'air muet dans mes oreilles, là. J'ouvre la fenêtre. Je plonge ma main dans mon sac sur le siège arrière. Ah, c'est pas facile, je sors mes clopes en gardant une main sur le volant. Ah, mais il est où ce briquet, putain? Mais je farfouille un peu plus. Bam. Ah merde, mais c'est quoi ce truc? Oh, j'ai roulé sur un truc? Merde, putain. Bon, vas-y, ça a pas l'air grave, je veux pas savoir, je roule. Ouais, je préfère rouler. Ah, il y a un monsieur... Ah, monsieur sur le bord de la route avec un cab en bleu marine qui me fait signe. Bon, bah, je m'arrête.
En tout cas, c'est vraiment hyper sympa de votre part de me prendre parce que je galérais là sur le bord de la route. Ah, vous inquiétez pas, je vais juste à côté. Oh là! Oh là! Eh ben, vous avez le pot percé, hein? Ah oui, vous l'entendez pas, vous avez le pot percé, là! Oh là là, c'est une catastrophe! Ah bah, je peux vous conseiller de le changer le plus rapidement possible parce que vous allez pas passer le contrôle technique, hein. Ah non, ça ils aiment pas. Ah, ils aiment pas du tout. Ils aiment pas du tout, du tout. Ouais, c'est quand on accélère, là, ça fait une vibration, en fait. Moi, c'est l'usure, hein, tout simplement. T'as devoir accélérer un peu? Voilà. Voilà. Vous l'entendez, là? Eh ouais, c'est pas percé. Ah ouais. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter juste ici. Vous pouvez vous arrêter là. Oh, c'est hyper sympa. Non, vraiment, c'est hyper sympa de votre part. Merci beaucoup, hein. Allez, au revoir.
Au revoir, cher monsieur briseur de rêves. Voilà. J'ai plus aucun sens à ma vie. Je n'ai aucune foutue idée de comment réparer ça et trouver un pot d'échappement sur cette route déserte. Ça va pas être du gâteau. Je me stoppe, sur le côté. Aventurine, tu fais moins la maline maintenant que j'ai besoin de toi, hein. J'ai le regard dans le vide et l'œil morne de celle qui n'a plus l'envie. Mes considérations sur l'aventure, sur la voiture individuelle et l'industrie pétrolière me reviennent en tête, comme une litanie qui ne se serait gravée d'elle-même. Je réentends des bribes de textes. Tels des parasites vivant en symbiose. Des hommes s'affairant pour les soigner, les entretenir, les alimenter. Usées et détruites. Rythme prescrit. Système général des machines. Fais chier. Pendant un instant, j'ai cru pouvoir oublier à quel point tu es mortifère, à quel point tu symbolises quelque chose que je vomis. Tu m'as caressé avec ta vitesse et ta puissance pour que je ferme les yeux. Tu m'as acheté avec ta promesse de liberté, concordant avec mon désir de grand espace. Louise et Thelma, sauf que je suis toute seule et que l'Amérique des années 90 s'est terminée. Dans ma rage, j'ai même pas vu qu'à quelques mètres devant moi se dressait une station-service comme celle que l'on trouve en campagne. Ouf ! Je vois écrit « Nous reprenons vos voitures qui ne roulent plus ». Bon. Allez, aventurine, t'as bien compris ? Ne me regarde pas comme ça, toi et moi, c'est fini. On a vécu de belles choses, mais je crois qu'on se fait trop de mal toutes les deux. Tu le sais autant que moi qu'avoir une voiture individuelle, c'est vraiment un truc de connard. Ne rends pas les choses plus difficiles, s'il te plaît. Et supprime mon numéro. Je ne décrocherai pas si tu m'appelles.
Ma mission et ma vie s'arrêtent sur cette aire d'autoroute. Merci, Cécile. Bon courage. La route est à toi. Ton destin entre tes mains. Au revoir.
Faut que j'achève la pauvre bête. Je vais la pousser jusqu'au repreneur.
Vroom ! Déjà, je sentais bien qu'elle n'était pas à son aise, la petite dame, au volant d'une voiture si grande et pourtant de si petites jambes. Elle arrive en fin de journée au garage, un peu paniquée. Bon, jusqu'ici, tout va bien, vous me direz. La plupart des gens qui arrivent à conduire jusqu'ici, c'est pour la révision d'un truc qui cloche. Et les autres, je les récupère au bord d'une route pour une panne. Mais ma petite dame, c'est pas que la mécanique qui l'inquiète. Alors, je la vois qui descend la haute marche du Defender, et puis qui arrive vers moi, déjà le portefeuille en main. Elle me raconte un tas de trucs avant de me parler de sa voiture. Qu'elle avait des grands projets, elle pensait démarrer avant le soleil et partir rejoindre une troupe de marionnettistes pour une représentation dans un festival en Corrèze. Un truc assez loin, bien paumé, mais pourtant, il n'y a que des Parisiens. En chemin, elle devait rejoindre un club sentimental. Le truc genre tu participes en cercle et tu soulages ta conscience de consommateur en faisant des câlins. Bref, le tout sans passer par l'autoroute, pas à cause des péages, non, mais pour le folklore des nationales. À peine 20 bornes après la fin du périphérique, sur une route en bordure de forêt, elle entend « boum » et roule sur quelque chose qu'elle me décrit par sa tendre dureté. Mais à 80 km/h, elle s'arrête pas. Un regard dans le rétro, mais rien bouge, alors elle continue. Et après un moment, la longueur de quelques musiques sur les ondes, elle me précise, elle commence à avoir des remords, à penser qu'elle a dû heurter un animal, qu'elle a peut-être rendu un écureuil tétraplégique ou ôté les ailes d'une perdrix. Elle me décrit l'horreur de savoir qu'une vie est perdue, même si petite, en pensant égoïstement à son divertissement. Et puis elle commence à penser que parcourir toute cette distance en voiture, c'est pas raisonnable pour les traces qu'elle produit avec elle, l'empreinte qu'elle laisse, mais pas celle de ses pneus, elle me dit. Donc je suis perdue, moi. Pourquoi elle vient dans mon garage? Votre voiture, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien voilà. Moi je veux continuer en stop, mais je suis venue vous demander de l'euthanasier.
Bon. Me voilà légère, mais sans autre moyen de locomotion que mes deux pieds. Je leur fais confiance. Ils m'emmènent, un peu plus loin sur la route. La dame de la station était gentille, mais je ne veux pas l'embêter et lui demander de l'aide. C'est une route banale. Mais plus on s'avance, plus on a l'impression d'être dans le Midwest. Non, en fait, je commence à dire n'importe quoi parce que je ne sais même pas à quoi ça ressemble, le Midwest. Je sais juste qu'il fait chaud, que le soleil est toujours au rendez-vous. Mais c'est rigolo parce que je vois en face de moi un tout petit nuage. Et il pleut tout seul. En dessous, il y a une personne. Elle parle, alors je m'approche doucement. De toute façon, j'ai plus rien à perdre maintenant. Mais elle n'a pas l'air de comprendre qu'il ne pleut qu'au-dessus d'elle.
Je vais pas aller loin comme ça, hein. C'est sûr que... Je pense que je vais pas recommencer d'ici tôt, quoi, parce que c'est pas non plus la meilleure de mes idées. Puis si je me barre, c'est pas pour... Enfin, C'est pas pour rien, j'ai pas trop le choix non plus. J'ai essayé de me barrer différemment, mais ça marche pas. J'essaye d'aller sur Google Maps, quoi. Et Google, j'ai pas trop envie qu'il... Oh là là, quelle complication. Ouais, j'arrive. Putain. Mais comment je vais faire pour lui dire qu'on va pas pouvoir partir? Attends 2 secondes, je reviens. Non mais c'est vraiment une galère, putain. Ça me saoule, je sais pas comment on va faire. Je lui ai dit qu'on avait besoin de partir. Bon, tu viens là ou quoi? Putain, mais... Il pleut. Et comment on fait quand on est sous la putain de pluie et qu'on veut juste se barrer hyper loin parce qu'on a, on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement, on n'a pas le choix. C'est pas compliqué. Allez, mais viens, quoi. Oh là là, mais... C'est, le monde ne tourne pas rond. La putain de pluie tombe du putain de soleil. Et il y a la... Ah, putain, j'en ai dans l'œil. Et c'est quoi que j'ai dans l'œil? C'est du kérosène, c'est ça? Bah super, c'est sûr que ça va nettoyer mes lentilles, ça. Mais chier, j'en ai ras le bol. Ça me coule dans le cou, putain. Mais c'est pas ce que je veux qui coule dans mon cou, là. Actuellement, je veux putain d'un chocolat chaud qui coule dans mon cou. J'en ai ras le bol. Mais elles font quoi, ces meufs, là-bas? Elles ont l'air complètement hystériques. Après, c'est vrai que si on pense à tout ce qu'on dit des meufs, je peux supposer beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont en colère. Et heureusement, moi, je reste dans mon petit endroit, tranquillou, sous l'arrêt de bus. Ça se passe très bien. Je prends mon temps. Y'a pas d'oiseau, putain. Y'a pas d'oiseau. Eh, c'est logique en même temps, quand il pleut, tu vas pas voler dans les airs, quoi. Franchement, si j'étais un oiseau, j'irais pas voler quand il pleut, quoi. Pourtant, y'a des avions quand il pleut. Mais là, y'a pas beaucoup d'avions, quand même, hein. Ah, putain, j'ai oublié mon cake! Faut que j'aille mettre mon cake!
Je regarde l'horizon. Le nuage s'en va, la fille aussi. Je commence à cramer, mais je m'en fiche. Je suis dehors et je suis bien. Plus de fourmis, plus de voitures, plus d'essence, plus de parquet à creuser. Je ne tourne pas en rond, mais je marche tout droit. Au loin, j'entends un bruit de moteur. 20 minutes que j'attends sur cette route, nulle, sans voir une seule auto. Enfin ! Je m'élance, salue la fille qui s'éloigne avec son nuage et cours à la rencontre de la bagnole de la liberté. Oh, mais c'est pas une voiture, c'est un camping-car. Je cours. Attendez-moi!
Hey, salut, toi. Vas-y, grimpe. Tu vas où comme ça? Vas-y, pose ton sac.
Ah, merci. Je sais pas trop encore. Mais c'est cool de me prendre. En fait, j'ai eu un souci de peau percée et je pouvais pas faire 100 mètres de plus avec ma voiture. Et il est beau, ton camping-car.
Ouais, il est chouette, hein. Mais bon, c'est pas le mien. C'est celui de Florène. Elle dort derrière avec Camille, là.
Je dors pas.
Moi non plus. Mais oui, c'est mon camping-car. Heureuse que tu l'aimes. Du coup, tu viens au village avec nous si tu sais pas où aller?
Ouais, peut-être.
Emballé, c'est pesé. Donc, une personne de plus au village, c'est cool.
C'est quoi le village, en fait?
Bah, on peut pas trop en parler. On sait pas si t'es digne de confiance encore, tu vois.
T'es relou un peu. Elle dit nimp. Bon. Le village, c'est un endroit, déjà. Ensuite, c'est un endroit où on vit. Ensuite, c'est un endroit où il y a des chances.
Ouais, pour l'instant, je capte.
Ok, super. Ensuite, c'est un endroit où il y a des maisons.
Mm-hmm.
Et puis, ces personnes partagent des choses.
Ouais, ok.
Une conception commune de la vie en société, c'est-à-dire un désir de vivre en commun, ensemble, dans leur maison. Et si elles le veulent, évidemment. Participer à des activités collectives qui seraient au service de la communauté. Si elles le veulent, évidemment.
C'est une sorte de village, en fait.
Exactement. Je pense que tu vas bien t'entendre avec nous, t'as l'air dans l'esprit du truc, en tout cas. De toute façon, t'as pas le choix, maintenant.
Mais c'est pas une secte, au moins.
Ça dépend ce que t'entends par secte.
Mais arrête de l'embêter. C'est archi pas une secte. On fait un jeu? Bon. Tu veux nous raconter pourquoi tu pars?
Non. Mais vous, pourquoi vous partez?
Heureuse que tu poses la question. Alors moi, ça a fait comme un flash. J'étais en train de m'inscrire sur pôle-emploi.fr, je remplissais tout bien. Tout d'un coup, j'ai vu le logo, la bullette bleue, là, et tout a commencé à tourner. Et bam, j'ai vomi sur mon clavier. La bullette bleue et vomito. Chelou. De là, je pouvais plus sortir dans la rue, ni même rester chez moi sans que je galette à la vue d'un logo. Et puis, ça s'est attendu à toute forme de communication visuelle, genre les pubs. Du coup, mon seul salut, c'était l'exil.
Moi, c'était nettement plus progressif, mais on peut clairement parler de névre ou de breakdown numérique. Au début, j'ai envie de te dire normal, je passais plus clair de mes journées avec mon smartphone. De là, ça a glissé doucement vers une absence totale de concentration. Puis, je pouvais plus faire une seule activité, même bête sans lui, genre la vaisselle, la douche, le dodo, pour arriver au point de non-retour, quand j'ai ressenti de l'excitation sexuelle au son d'une notification Instagram. Là, j'ai fermé tous mes comptes numériques, j'ai brûlé mon smartphone et mon appartement, j'ai dit au revoir à ma famille, et je suis partie.
Ok, d'accord. Et toi?
Bah moi j'ai toujours voulu me barrer, mais j'avais pas de caisse, alors bon bah quand Florence s'est pointée avec son camping-car, et ben en avant Guingamp quoi. Tu mets de la musique, ça t'emmerde pas?
De toute façon, t'as plus le choix maintenant.
Les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la moi je pense à la flamalabalabala cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie.
Vous l'aurez compris, 37.5 c'est terminé pour aujourd'hui, mais nous revenons très vite pour vous caresser les aux oreilles avec d'autres fictions, d'autres protagonistes, d'autres ambiances, d'autres histoires. En somme, en attendant, nous vous souhaitons une superbe soirée. Chérissez-vous, chérissez vos proches et même les gens que vous ne côtoyez pas et que vous n'aimez pas tellement, mais c'est un moment de partage et d'amour, puisque le partage et l'amour peuvent se donner dans beaucoup de moments, je crois, enfin j'ai l'impression. Belle soirée et à bientôt sur 37.5.